Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
J'ai choisi de débuter cette histoire par une scène cocasse dans laquelle on entrevoit déjà le Belmondo ressort qui apparaîtra vraiment au milieu des années 60. Là, on est en 1954, un soir d'hiver, Belmondo est encore au conservatoire. Suivez-moi et tanquez-vous avec moi devant le 14 boulevard Montmartre dans le 9e arrondissement de Paris. Ça y est, vous y êtes? Alors, vous les voyez, les deux potes, là, qui font les cons sur le trottoir? Le premier avec son air très grave, très sérieux, qui tient son ami par la main. Lequel ami a l'air débile, gogol, le béret enfoncé sur le crâne, les pieds en dents, un œil qui dit merde à l'autre, et le visage tordu par les tics. Vous les voyez? Tous les deux, main dans la main, on dirait un grand frère qui promène son petit frère handicapé mental. Le sérieux, je vous le dis tout de suite, c'est Jean-Pierre Marielle, 22 ans. Et l'autre, celui qui joue les gogoles, c'est Jean-Paul Belmondo, 21 ans. Ils sont tous les deux au conservatoire et ils adorent ce genre de mise en scène qu'ils sont capables, vous allez voir, de pousser très loin. Évidemment, les copains du conservatoire ne sont pas loin. Ils sont tous assis à la terrasse d'un café et ils sont pliés en deux de rire. Et là, le duo entre dans un restaurant, le Grand Max Evin, spécialité de choucroute, clientèle bon chic bon genre. Le serveur leur montre tout de suite la sortie.
Ah non, messieurs, non. Comment ça, non? C'est parce que mon petit frère est malade que vous ne voulez pas nous laisser entrer, c'est ça? Écoutez, messieurs, je vous demande de sortir.
Et là, Jean-Paul fait mine d'échapper à son grand frère, il lui lâche la main et il se met à courir dans le restaurant et il grimpe sur une table et il bondit d'une table à l'autre comme une balle en caoutchouc. Et au passage, il envoie valdinguer les plats de choucroute sur les clients. Les serveurs tentent bien de l'attraper, mais c'est une vraie puce. Et finalement, les deux plaisantins finissent par se faire la malle en rigolant comme des soudards de leur bonne blague. Je vous raconte cette anecdote parce que, au fond, elle nous offre un avant-goût des grandes années Bébel. Elle laisse entrevoir quelle sorte d'acteur va devenir Jean-Paul Belmondo. Facétieux, chahuteur et cascadeur. Parce que sauter comme une puce de table en table en envoyant valdinguer les plats de choucroute sur les clients, tout ça en jouant les débiles, l'air de rien. C'est un art. Ça n'est pas à la portée de n'importe quel jeune comédien. Bon. Il faut quand même que je vous dise qu'au conservatoire, les facéties permanentes de Jean-Paul agacent un peu. Parce qu'en vérité, il n'arrête jamais.
Il était dans sa, sur le balcon et tout le monde fait « Allez, saute, saute !» Tout le monde était dans les mains, on était tous là, on attendait le professeur, qui était Pierre Dux, et il s'est jeté dans le vide, il s'est accroché au rideau, et tout est descendu. Il est descendu, je ne sais pas combien de mètres carrés de rideaux, dans un nuage de poussière, car ces rideaux n'avaient jamais été nettoyés. Et Dux a fait « Bravo, monsieur Belmondo !» Il faudrait peut-être penser d'une façon urgente à un autre métier, je crois.
En attendant, après 3 années de conservatoire, le concours de sortie se profile. Et évidemment, Jean-Paul rêve d'un premier prix, un premier prix de comédie. Il se dit qu'avec ça, il pourra peut-être entrer à la Comédie française et que ses parents seraient drôlement fiers de lui. Pour ce concours, si important, il a choisi un extrait des Fourberies de Scapin, le rôle de Scapin lui-même, et une pièce de Georges Feydeau, Amour et piano. Sa prestation fait un tabac. Toute la salle est morte de rire. Les copains du conservatoire ne sont pas prêts de l'oublier.
Je vous dis pas ce que Belmondo faisait dans cette scène, mais il y avait tout le public de l'Odéon par terre en hurlant de rire. C'est une des choses les plus drôles que j'ai jamais vues de ma vie.
Mais ça ne suffit pas pour le premier prix. Le jeune Jean-Paul Belmondo ne décroche qu'un accessit. Pour la Comédie française, c'est mort.
C'est vrai qu'on m'a jamais pris au sérieux. Je me suis retrouvé avec des accessits parce que comme je faisais toujours l'idiot dans les couloirs, et je prenais pas une tête, disons, sérieuse. On croyait que je me foutais de mon métier. Parce qu'on confond souvent la détente avec le genre foutu, ce qui n'est pas du tout pareil.
Donc, Puisqu'il n'a pas pu intégrer la Comédie française, à sa sortie du conservatoire, Jean-Paul Belmondo se retrouve cantonné aux petits rôles. Au théâtre, dans les boulevards, et au cinéma, il ne fait que des premiers pas timides, dans un premier court-métrage commandé par la CGT. Il tourne aussi un peu pour Carnet, un peu pour Chabrol, mais rien de notable. Et puis en 1958, un réalisateur suisse, absolument inconnu, le repère dans la rue. Sur le trottoir, il lui propose un rôle dans son prochain court-métrage. Ce gars s'appelle Jean-Luc Godard. Et il lui propose un premier rendez-vous, où ça? Dans une chambre d'hôtel. Ouh là là, ça craint ça. Le jeune Belmondo tique un peu. Ça flaire le traquenard, mais bon, il a besoin de bouffer. Et si ça part en sucette, il sera toujours temps de se faire la malle par la fenêtre, et puis voilà. Donc il rencontre ce Godard, qui lui parle d'un projet très flou, une histoire d'amour dont les contours ont l'air complètement improvisés. Mais bon, il a besoin de croûter. Alors il dit oui, et il tourne ce court-métrage. Et il a été bien inspiré de dire oui, parce qu'un an plus tard, en 1959, le même Jean-Luc Godard le rappelle, et il lui propose le premier rôle dans son prochain film. Et cette fois, ça sera un long métrage. Ça s'appellera « À bout de souffle ». C'est le rôle d'un jeune voyou insolent et séducteur. Sa partenaire sera Jean Seberg.
Vous venez d'où, Monte Carlo?
Non, de Marseille. Je suis resté samedi et dimanche à Monte Carlo. Fallait que je voie un type. Lundi, j'ai essayé de t'appeler de Marseille.
Lundi et dimanche, je n'étais pas à Paris. New York Herald Tribune!
Je t'en prends un.
C'est gentil.
Ce film de Jean-Luc Godard sort en 1960 et c'est un immense succès. Et comme l'argent, c'est connu, vient aux riches, dans la foulée, tout le monde le veut. Et il dit oui à tout. Il enchaîne les rôles comme on enfile les perles d'un collier. Et au fur et à mesure, les réalisateurs s'aperçoivent que ce type-là a une agilité hors du commun. C'est un ressort, c'est ça, c'est un ressort humain. En 1962, par exemple, il joue Cartouche pour Philippe de Broca. Il doit tourner plusieurs scènes d'action. Des scènes où il se bat à l'épée et d'autres où il monte à cheval. Il est génial. Il fait tout ça avec une facilité incroyable. De Broca est fasciné, fasciné. Et c'est le début d'une longue histoire. Et c'est en 1964, dans L'Homme de Rio du même Philippe de Broca, qu'apparaît vraiment le Belmondo cascadeur. C'est simple, il ne connaît pas le vertige. Dans L'Homme de Rio, il y a une scène où il est poursuivi par des tueurs et pour s'en débarrasser, il doit passer du toit d'un immeuble à un autre, sur un câble tendu. Eh bien, il y va tout droit. Et bien sûr, il n'y a pas de sécurité, il n'est pas attaché. Sauf que sous le poids de ses 70 kilos, le câble se détend complètement, comme un spaghetti en travers d'une casserole. Il ne peut plus ni avancer, ni reculer. Eh bien, il finit à la force du poignet, centimètre par centimètre, sous une chaleur de gueux, encouragé à distance par le préparateur de la cascade, Gilles Delamarre.
Allez Jean-Paul, sois calme. Repose-toi sur tes jambes, enroule-les autour du câble, repose-toi les mains, c'est bon. Allez, c'est bien comme ça. Continue.
Il lui faut 12 minutes pour rejoindre le toit de l'immeuble d'en face. C'est long, mais il n'a pas paniqué, pas un seul instant. C'est un déclic.
Peut-être que je ne l'en ferais pas pour un autre film si je ne m'entendais pas comme je m'entendais avec les gens dans ce film. Là, de l'opérateur jusqu'au metteur en scène de Broca, on s'entendait comme larron en foire. Et il y avait un enthousiasme qui se dégageait de toute l'équipe. Alors, j'étais un peu porté, je veux dire, ça me... Et je, en faisant ça, on ne pensait pas à se dire, ah, ça c'est très dur, ça va être très dangereux. Et les gens autour de moi n'étaient pas non plus à me faire des têtes, à se dire, c'est terrible ce que tu vas faire. Et tout ça venait normalement.
L'Homme de Rio fait 4 800 000 entrées. Et après, eh ben on lui demande de recommencer. Et il n'arrête pas. les tribulations d'un chinois en Chine, Borsalino, un singe en hiver, le cerveau, le casse, avec des réalisateurs comme Gérard Houry, Henri Verneuil, Claude Chabrol et toujours Philippe de Broca. En 5 ans, il joue presque 20 films et il est toujours en tête d'affiche. Et c'est toujours lui qui réalise ses cascades, lui-même. Et ça, tout le monde le sait. Belmondo, c'est l'acteur qui ne triche pas. C'est l'acteur à qui rien ne peut arriver. Alors quand il veut passer à un autre registre, les gens ont du mal.
Il y a des rôles aussi où les gens ne vous acceptent pas. Par exemple, quand j'ai fait la Sirène du Mississippi, qui était un style complètement différent de ce que j'avais fait ces dernières années. Et je voyais les gens... Enfin, je ne parle pas si le film était réussi ou pas, même, mais j'ai des gens qui me disaient « Oh non, vous laissez martyriser comme ça, sans réaction, ça ne va pas aller. »
Alors, il repart dans ses acrobaties et arrive le film qui va le consacrer cascadeur. En 1974, Henri Verneuil l'enrôle dans Peur sur la ville. Belmondo doit incarner le flic Le Tellier qui pourchasse un serial killer dans Paris. Quand il lit le scénar, il comprend tout de suite que ce sera une farandole de cascades, du jamais vu au cinéma. Il va devoir courir sur les toits, se suspendre à un hélicoptère et pourchasser le tueur dans un métro. Dans un métro? Et pourquoi pas sur un métro? C'est lui, Belmondo, qui le suggère à Verneuil.
Tu veux que le flic et le meurtrier soient tous les deux sur le métro? Non, je serai sur le toit du métro et le meurtrier sera en dessous, dans le métro. Mais tu le sens de faire cette scène? Sur un métro aérien, lancé à 70 km/h?
S'il le sent, mieux que ça, ça l'excite complètement. Depuis ses premières montées d'adrénaline, il est devenu accro. Et cette cascade sur le toit du métro va donner une scène de cinéma d'anthologie. Elle sera tournée là où le métro émerge en aérien, sur le pont Bir Hakeim, au-dessus de la Seine, tout près de la Tour Eiffel.
Bien entendu, tous les risques sont calculés, car tout a été d'abord à 10 à l'heure essayé, puis à 15, puis à 20, puis à 30, puis à 40. Et c'est quand Belmondo lui-même a senti son équilibre au-dessus de ce métro que nous allons jusqu'à 70 à l'heure. Bon, nous sommes prêts, bien entendu, à couper le courant à tout instant. Mais il y a quand même de grands moments de suspense, car un malaise peut toujours arriver à quelqu'un, et à ce moment-là, c'est la catastrophe.
Car d'un côté, il y a les lignes à haute tension, et de l'autre, il y a 10 mètres de vide. C'est très dangereux. Mais bon, à un moment donné, il dit...
C'est bon, les gars, je suis chaud. On peut faire la prise.
Et le voilà lancé sur le toit de ce métro, qui à l'époque est bleu, debout dans une veste en cuir, le flingue à la ceinture, les bras en balancier façon débutant sur des patins à glace. Mais au bout du pont Bir Hakeim, le métro replonge dans un tunnel, et là, pour ne pas prendre le tunnel en pleine poire, il faut se jeter à plat ventre, sur le toit, à la dernière seconde.
Le métro aérien était le vrai métro, les voyageurs étaient dans le wagon. D'ailleurs, il y avait une histoire qui est vraie, il y a le chauffeur du train, le mécanicien, à un moment donné, il est descendu, et il m'a dit « Chapeau, mon vieux, pour 100 millions, moi, je ne ferai pas ça ». Et je lui ai répondu « Moi non plus ».
Quelques temps plus tard, dans « L'animal » de Claude Zidi, Belmondo pousse le bouchon encore plus loin. Un festival de cascades dans lequel il joue un cascadeur maladroit.
L'idée, c'est Belmondo, parce qu'il fait des cascades et il les fait très bien. Alors, travaillons sur un cascadeur qui les fait assez mal.
Dans ce film, l'animal, à un moment donné, Jean-Paul Belmondo doit dévaler des marches. Sur un escalier en marbre, il explose, façon puzzle. Donc, on lui a installé un escalier spécial cascade, aux marches moelleuses. Mais il y a quand même 50 marches à dévaler. Eh bien, il se lance comme on se lance d'un plongeoir. Et il recommence 3 fois. Et à la 4e prise, Claude Zidi lui dit
« Oui, c'est bien, tu y vas, mais est-ce que tu pourrais pas te redresser un peu plus au milieu de l'escalier avant de continuer à rouler ?» Il a essayé de le faire et il s'est quand même pété la cheville. Quoi.
Ah, c'est la cheville, mais C'est juste tordu. Je la marche parce qu'elle est chaude. Salope, merde.
Belmondo jure, Belmondo clopine, mais une piqûre de cortisone plus tard, et c'est reparti. Une dernière prise. Et c'est la bonne. L'occasion se présente en 1979 quand Georges Lautner lui propose de jouer dans Le Guignolo. Le rôle d'Alexandre Dupré, un voleur récemment sorti de prison en possession d'un microfilm poursuivi par une horde d'espions. Et il est prévu une scène d'hélicoptère dans laquelle il doit s'agripper à un trapèze avec ses chaussettes noires remontées jusqu'aux genoux et son caleçon blanc à pois rouge. Et ensuite, il doit se tenir à bout de bras au bout de ce trapèze. Bien sûr, on lui a collé une sécurité. Deux petits films d'acier qui s'échappent de ses manches et qui sont fixés à l'hélico. S'il lâche, il ne risque rien. Et tant mieux, parce qu'il doit tenir comme ça pendant plus de 5 minutes, le temps que l'hélico fasse le tour de Venise. 5 minutes à bout de bras, avec le vent qui cherche à vous arracher de l'hélico. C'est très long. En général, on ne tient pas plus de 3 minutes. Et après, c'est ce qu'on appelle la main blanche. Les mains se tétanisent, les doigts s'ouvrent automatiquement, d'eux-mêmes. Mais avec lui, ça passe. C'est dingue, mais ça passe. 2 ans plus tard, en 1981, Belmondo s'engage dans un nouveau défi. L'As des As, de Gérard Houry. Le film se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, et il y a une scène dans laquelle il est au volant d'un cabriolet Mercedes des années 30, une grosse machine, hein, au fuselage long et puissant, avec deux gros phares façon voiture d'Al Capone. Il est poursuivi par des soldats allemands, à moto, et il déboule à 80 km/h sur une route sinueuse de montagne, en costume et en béret blanc, avec, sur le siège passager, un gamin de 10 ans, le jeune comédien Rachid Ferrache. Il ne faut pas se louper. D'autant qu'à un moment, il est prévu qu'il passe le volant au gamin et qu'il enjambe la portière pour se poster sur le marchepied et balancer une roue de secours sur les motards allemands qui le pourchassent. Vous voyez la scène? C'est pas du gâteau. D'autant que le petit Rachid, à 10 ans, a les jambes trop courtes pour atteindre les pédales. Éventuellement, il peut manœuvrer le volant, mais il ne peut pas freiner. Donc, on cherche une astuce. Et on la trouve. On va installer une plateforme collée à la voiture sur laquelle s'installera le cascadeur Rémy Julienne. C'est lui qui prendra les commandes quand Belmondo lâchera le volant et se hissera sur le marchepied. Seulement voilà, au moment où Belmondo passe le volant au jeune Rachid, il est censé actionner une manette pour transférer les commandes à Rémy Julienne. Mais sa manche se prend dans la manette et quand il se retourne sur le marchepied, Rémy Julienne n'a absolument pas les commandes de la voiture. C'est le petit Rachid qui conduit au bord d'un précipice à 10 ans.
Et je me suis retrouvé, moi, avec une voiture en roue libre, les jambes trop courtes pour appuyer sur les pédales et la voiture lancée à 80 km/h à peu près et en train de conduire.
Et ça passe. Il a la baraka. Ça fait une partie de son talent. Et après, il enchaîne. Surtout avec Georges Lautner et Henri Verneuil. Le professionnel, les morfalous, flic ou voyou, joyeuse Pâques. Et puis, lentement, se referme le temps des cascades. De toute façon, Bébel n'est plus vraiment à la mode. Et c'est là qu'il fait sa mue. Et qu'on s'aperçoit que Belmondo est un grand, même s'il ne fait pas le guignol. Dans Itinéraire d'un enfant gâté ou dans Les Misérables, il n'y a pas de cascade. Il y est magistral.
J'ai eu cette période de film, disons, d'action, qui m'a permis d'assouvir mes joies sportives. Et ça a été pour moi une grande joie. Vous savez, c'est ce que je disais, j'ai eu la chance, moi, d'être pendu au-dessus de Katmandou, de Pokra, de Venise, de Paris. Bon, bah, à un moment donné... J'ai assouvi tout, si vous voulez. Et puis j'ai fait tout ce dont j'étais capable. C'est pas un surhomme. Donc je ne pourrais refaire que ce que j'ai déjà fait, un peu plus âgé, et on dirait, ah, à son âge, ce qu'il fait, c'est formidable. Donc ça serait pénible quand on commence à dire ça.
Une dernière cascade, tout de même, pour la route. En 1998, Patrice Lecomte, dans Une chance sur deux, lui propose une dernière acrobatie, aux côtés d'Alain Delon et de Vanessa Paradis. Bébel a 62 ans et sa crinière blanche flotte au vent. Il s'échappe d'une décapotable, agrippé à une échelle qui pendouille d'un hélicoptère. Et tout ça, sans harnais et sans aucune sécurité, bien sûr.
Il traîne un peu, c'est plus ce que c'était.
Oh. Je vous préviens, hein, c'est la dernière fois, hein. Non mais c'est vrai, hein, de quoi j'ai l'air.
Il a encore des bras à 62 ans, l'animal.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.